Ciré, la paix ignominieuse. Son seul regret était qu'Alfred Dreyfus ne fût pas lui-même un civil. Augustin ne partageait pas cette passion des idées. Des noms mis sur le hasard, répondait-il en souriant à son père, pourtant il aimait leur confort. Avec les chats, les dessins, le travail, les cheminées, le silence, les idées permettaient de descendre au centre du monde et de s'y trouver bien. Il goûtait beaucoup ces sensations élémentaires. À son père non plus la vie courante n'était pas étrangère. La mère d'Augustin était douce et belle comme sur les gravures. Elle était morte pendant le terrible hiver de 1870 et chaque soir, avant de se coucher, Charles-Pierre parlait à son portrait, fine silhouette noire dans un cadre ovale. Rien ni personne ne l'avait remplacé. Son fils et ses amis venaient après se souvenir. Comme il n'inspirait pas la camaraderie et se refusait à toute familiarité, il avait peu d'amis mais excellents. Il les faisait dîner et parler, leur offrait de bons vins et quelquefois des divertissements imprévus. Certains soirs où la conversation languissait le cercle comprenait Nathanaël de Bussy, un directeur du Sué et deux jeunes diplomates, il avait mis brusquement le feu au rideau de l'appartement qu'il occupait au-dessus de la librairie, en expliquant qu'ainsi, vous ne vous souviendrez pas de cette soirée comme de celle où l'on s'est ennuyé chez Pierre, mais comme de celle où Pierre a foutu le feu au rideau. Il n'y avait mis aucune affectation, mais simplement beaucoup du souci de l'amitié qui l'animait. Les femmes étaient rarement admises à ces petits cénacles nocturnes. Bussy s'en réjouissait. Il avait vécu en Orient et s'offusquait toujours, avec un rien de pose, qu'en invitant le mari on attire la femme qu'on n'a pas demandée. Cette coutume lui paraissait révélatrice de la barbarie européenne. Cette tirade était en général suivie d'un long propos sur la brutalité des croisés, opposée au raffinement de Saladin, qu'il prononçait Salah ad-Din, et comment ce dernier faisait gentiment circuler parmi les francs prisonniers de gros blocs de glace, amenés en plein désert à force d'ingéniosité, afin qu'ils puissent se rafraîchir le cou avant qu'on le leur coupe. En tenant de tels discours, Nathanaël de Bussy, qui prétendait faire remonter sa famille aux croisades, entendait donner, par l'exaltation des ennemis de ses ancêtres, un bon exemple de la liberté d'esprit propre aux aristocrates, toujours prêts, non seulement à la nuit du 4 août, mais aussi aux décollations subséquentes, et surtout prêts à les comprendre. Les motifs de M. Pierre étaient plus doux. Que la femme d'un ami fût aimable ou non, dans les deux cas par similitude ou par contraste, elle lui rappelait la sienne dont il était privé. M. Pierre, qui ne voulait pas souffrir, coupait ainsi la racine du mal. Paris lui dispensait les joies les plus claires. Charles-Pierre ne supportait pas la campagne. S'il arrivait qu'il s'y trouvât, il s'aventurait rarement au-delà du perron, maudissait le temps, ironisait sur les vaches, et prédisait à ses hôtes les pires calamités, le toit qui s'effondre ou le train qui déraille, insistant sur les mille petits tracas qui guettent les adeptes de la nature, surtout les guêpes et la philosophie. Ces belles paroles valaient pour les provinciaux du dimanche, parmi lesquels il avait des relations. Pour les autres, les provinciaux de toute la vie, c'était plus grave. Ils ne songeaient pas à s'en moquer. La province était le réceptacle de la misère la plus insupportable, la misère des riches. En fermant les yeux, il voyait les familles à Charleville, près du kiosque où joue la musique de l'infanterie, à Bordeaux, place des Quinconces, et il avait peur. Il les voyait se donnant la main comme au tympan des églises, notaire épanoui de Loches, sous-préfet d'Issoudun perdu d'ambition, châtelain de la Mayenne volé par leurs fermiers et trompé par leurs femmes, recteur Bigouden épuisé d'amertume devant le monde moderne, paysan bosseron abreuvé de berluche, jeune fille vieillissante de partout, marinée dans la littérature, tout cela cuisant à feu doux depuis des siècles, avec la religion pour couvercle, et bientôt la morale républicaine. Cette danse macabre, complaisamment imaginée, moitié sérieusement, moitié pour rire, il aurait aimé pouvoir la peindre. Traversait-il, rarement il est vrai, Quimper ou Lyon en calèche, il se livrait à son jeu favori, qui était de compter les deumiers. 1, 2, 3, murmurait-il, qu'il fût seul ou non, lorsqu'il croisait l'adjudant avantageux, le couple mort d'avoir duré, l'étudiant mélancolique tirant sur sa pipe à deux sous, La province ressemblait au péché originel, nul ne pouvait prétendre y échapper. La prédestination s'étendait jusque-là. Les efforts faits pour quitter la province, même les plus désespérés, lui semblaient pitoyables. On restait marqué par elle, sans espoir de rédemption. Et cet homme de goût traquait jusque dans les plus beaux poèmes de Rimbaud, qu'il aimait pourtant, les mouvements dérisoires qu'il n'aurait pas eu s'il était né à Charonne et de mère inconnue. Il sent le cuif, disait-il de tel garçon énervé par sa bourgade natale. Le crime de provincialisme n'était prescrit qu'après deux générations. Ce délai permettait en effet, au moins en théorie, d'échapper à ce qu'il nommait « les niaiseries de l'enracinement », car la capitale elle-même n'était pas un endroit d'où l'on vint. Être de Paris, c'était être de nulle part, du cœur de l'univers, de l'universel enfin. Il y a des provinciaux de Paris, qui tirent fierté d'être nés là plutôt qu'à Nevers, d'être nés à Passy ou sur les buts de Chaumont, qui s'attachent à Paris comme ils l'auraient fait à leur village. Ils les détestaient bien plus que les Lyonnais, les jugeant coupables du crime contre l'esprit, le seul, comme on sait, auquel il ne sera pas pardonné. Le genre, parisien et son folklore, argot, chapeau claque, théâtre de boulevard et littérature de la rive droite, lui étaient plus que d'autres insupportables. Paris et ses habitants devaient échapper à tous les genres. Et il n'était jamais si heureux que lorsqu'il se faisait dire par les interprètes en chasse devant le Grand Hôtel et à la porte de chez Cook.